6. Grace Maitland, 10 ans, dormait mal depuis le meurtre de son père, et des cauchemars venaient hanter ses rares heures de sommeil. En ce dimanche après-midi, la fatigue l'enveloppa comme un édredon. Pendant que sa mère et sa sœur confectionnaient un gâteau dans la cuisine, Grace s'éclipsa et monta s'allonger sur son lit. Malgré la pluie, le ciel était lumineux et elle s'en réjouissait. L'obscurité lui faisait peur désormais. Elle entendait Sarah et leur mère discuter en bas. Ça aussi, ça la rassurait. Grace ferma les yeux et, alors qu'une seconde ou deux seulement semblait s'être écoulée quand elle les rouvrit, sans doute avait-elle dormi plusieurs heures, car la pluie tombait plus fort et la lumière avait viré au gris. Des ombres avaient envahi sa chambre. Un homme, assis sur son lit, la regardait. Il portait un jean et un t-shirt vert. Les tatouages sur ses mains remontaient le long de ses bras. Des serpents, une croix, un poignard et une tête de mort. Son visage ne semblait plus avoir été sculpté dans de la pâte à modeler par un enfant sans talent. Mais elle le reconnut malgré tout. C'était l'homme qu'elle avait vu devant la fenêtre de Sarah. Au moins, il n'avait plus d'épaille à la place des yeux. Il avait les yeux de son père. Grace les aurait reconnus n'importe où. Elle se demandait si elle était dans la réalité ou si elle rêvait. Dans ce cas, c'était mieux que les cauchemars. Un peu mieux.
« Papa ?»«
Oui, c'est moi, » dit l'homme.
Son t-shirt vert changeait des maillots aux couleurs des Golden Dragons que portait son père. Et Grace comprit qu'elle rêvait, finalement. Le t-shirt prit temporairement l'apparence d'un vêtement blanc et ample, une sorte de blouse, avant de redevenir un t-shirt vert.
« Je t'aime, Gracie. »«
Il ne parle pas comme ça, » dit la fillette. « Vous essayez de l'imiter. »
L'homme se pencha vers elle. Grace recula, les yeux fixés sur ceux de son père. Ils étaient plus convaincants que cette voix sirupeuse, mais ce n'était toujours pas lui.
« Je veux que vous vous en alliez. »«
Oui, je m'en doute.
Et les gens qui sont en enfer veulent de l'eau bien fraîche. »«
Tu es triste, Grace. Ton papa te manque ?»«
Oui. »
La fillette se mit à pleurer.
« Allez-vous-en. C'est pas les vrais yeux de mon papa. Vous faites semblant. »
« N'attends aucune compassion de ma part. Je suis content que tu sois triste. » J'espère que tu resteras triste longtemps et que tu pleureras, ouin, ouin, comme un bébé.
Taisez-vous !
L'homme se redressa.
D'accord, à condition que tu fasses quelque chose pour moi. Tu veux bien faire quelque chose pour moi, Grace ?
Quoi donc ?
Il le lui dit. Et voilà que Sarah la secouait pour qu'elle descende manger une part de gâteau.
C'était donc bien un rêve, et elle n'était pas obligée de faire quoi que ce soit. Mais si elle le faisait, peut-être que ce rêve affreux ne reviendrait plus jamais.
Elle s'obligea à manger un peu de gâteau, bien qu'elle n'ait pas faim. Et quand sa sœur et sa mère s'installèrent dans le canapé pour regarder un film à l'eau de rose, Grace déclara qu'elle n'aimait pas les histoires d'amour. Elle préférait monter dans sa chambre pour jouer à Angry Birds. Mais au lieu de cela, elle se rendit dans celle de ses parents, devenue la chambre de sa mère maintenant, et c'était triste. Il prit le téléphone portable sur la table de chevet. Le numéro du policier ne figurait pas dans les contacts, mais celui de M. Gold, si. Elle l'appela, en tenant l'appareil à deux mains pour l'empêcher de trembler. Elle pria pour qu'il réponde. Sa prière fut exaucée.
« Marcy, que se passe-t-il ? »
« C'est Grace. J'appelle avec le téléphone de ma maman. »
« Bonjour, Grace. Je suis content de t'entendre. Pourquoi m'appelles-tu ? » ?»«
Je ne savais pas comment faire pour appeler l'inspecteur de police, celui qui a arrêté mon père. »«
Pourquoi veux-tu ?»«
J'ai un message pour lui, de la part d'un homme. Je sais que c'était sûrement un rêve, en vérité, mais je veux pas prendre de risques. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit et vous pourrez le répéter à l'inspecteur. »«
Quel homme, Grace ? Qui t'a donné ce message ? »
La première fois que je l'ai vu, il avait des pailles à la place des yeux. Il dit qu'il ne reviendra plus si je transmets le message à l'inspecteur Anderson. Il a essayé de me faire croire qu'il avait les yeux de mon papa, mais c'est pas vrai. Son visage est plus joli maintenant, mais il fait encore peur. Je veux pas qu'il revienne, même si c'est juste en rêve. Vous le direz à l'inspecteur Anderson, alors ?
Sa mère était apparue sur le seuil de la chambre et elle l'observait sans rien dire. Grace devinait qu'elle allait avoir des ennuis, mais elle s'en fichait.
Que dois-je lui dire, Grace ?
D'arrêter. S'il ne veut pas qu'il arrive quelque chose de grave, dites-lui qu'il doit arrêter.
7. Grace et Sarah étaient assis sur le canapé dans le salon. Marcy, coincée entre ses deux filles, les tenait par les épaules. Howie Gold avait pris place dans le fauteuil qui avait été celui de Terry jusqu'à ce que le monde chavire. Il était flanqué d'un repose-pied. Ralph Anderson le tira jusque devant le canapé et s'y assit. Il avait de si longues jambes que ses genoux encadraient presque son visage. Sans doute offrait-il un spectacle comique. Et si cela pouvait détendre un peu Grace Maitland, tant mieux. Ça devait être un rêve effrayant, Grace. Tu sais que c'était un rêve, hein ?
Évidemment,
répondit Marcy, le visage crispé et pâle. Il n'y avait pas d'homme dans la maison. Personne n'aurait pu monter sans qu'on le voie.
Ou sans qu'on l'entende au moins,
ajouta Sarah d'une petite voix timide, apeurée.
Notre escalier grince comme c'est pas permis.
Vous êtes ici pour une seule raison, pour rassurer ma fille, dit Marcy. Alors allez-y.
Ralph s'adressa à la fillette. Tu sais bien qu'il n'y a pas d'homme dans la maison, hein?
Oui.
Grace en semblait convaincue.
Il est parti. Il a dit qu'il s'en irait si je vous transmettais le message. Je crois qu'il ne reviendra plus maintenant, que ce soit un rêve ou pas.
Sarah poussa un soupir mélodramatique.
Nous voilà soulagés. Chut, ma chérie,
dit sa mère. Ralph sortit son carnet.
Dis-moi à quoi il ressemblait, cet homme dans ton rêve. Je suis inspecteur et je suis sûr maintenant que c'était un rêve.
Marcy ne l'aimait pas, et sans doute ne l'aimerait-elle jamais, mais elle le remercia d'un regard.
Il était plus beau qu'avant,
dit Grace.
Il n'avait plus son visage en pâte à modeler.
C'est à ça qu'il ressemblait la première fois,
précisa Sarah,
d'après ce qu'elle raconte.
Marcy intervint.
Sarah, va donc dans la cuisine avec Monsieur Gold et coupe une part de gâteau pour tout le monde, tu veux bien?
Sarah regarda Ralph.
Même pour lui? On l'aime bien maintenant?
Gâteau pour tout le monde,
répondit Marcy, esquivant habilement la question.
On appelle ça l'hospitalité. Allez, file!
Sarah s'arracha au canapé et traversa la pièce en direction de Howie.
On me flanque à la porte.
Ça arrive même aux gens bien, fit Howie. Je te rejoins chez les pestiférés.
Hein?
Non, rien.
Il se leva et ils se rendirent ensemble dans la cuisine.
Soyez bref, je vous prie, dit Marcy à Ralph. Vous êtes ici uniquement parce que Howie a dit que c'était important et que cela avait peut-être rapport avec... Vous voyez?
Ralph hocha la tête, sans quitter Grace des yeux.
Cet homme qui avait un visage en pâte à modeler la première fois.
Et aussi des pailles à la place des yeux. Elles dépassaient, comme dans un dessin animé. Et les ronds noirs que les gens ont dans les yeux, c'était des trous.
Ouais. Dans son carnet, Ralph nota « Des pailles à la place des yeux ».
Quand tu dis que son visage ressemblait à de la pâte à modeler, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il était brûlé? La fillette réfléchit.
Non, on aurait plutôt dit qu'il n'était pas entier, pas
fini,
suggéra sa mère. Grace hocha la tête et mit son pouce dans sa bouche. Ralph pensa alors,
cette gamine de 10 ans qui suce son pouce, au visage meurtri, c'est la mienne. Et peu importe que les preuves sur lesquelles il s'était appuyé aient été limpides. Et aujourd'hui, à quoi ressemblait-il, Grace, cet homme dans ton rêve?
Il avait des petits cheveux noirs dressés sur sa tête, comme un porc-épic, et une barbichette autour de la bouche. Il avait les yeux de mon papa, mais c'était pas vraiment ses yeux. Il avait aussi des tatouages sur les mains et sur les bras. Des serpents. Au début, son t-shirt était vert, puis on aurait dit le maillot de baseball de mon papa, avec le dragon doré dessus. Et après, ça ressemblait plutôt à ce machin blanc que porte Madame Gerson quand elle coupe les cheveux de maman.
Ralph se tourna vers Marcy, qui dit
« Je pense qu'elle veut parler d'une blouse. »
« Oui, voilà !»
confirma Grace.
Après, c'est redevenu un t-shirt vert et j'ai compris que c'était un rêve. Mais...
Sa bouche se mit à trembler et ses yeux s'emplirent de larmes qui coulèrent sur ses joues rougies.
« Il m'a dit des choses méchantes. Il a dit qu'il était content que je sois triste. Il m'a traité de bébé. »
Elle appuya son visage contre la poitrine de sa mère et laissa éclater ses sanglots. Marcy regarda Ralph par-dessus la tête de sa fille. À cet instant, elle n'éprouvait plus de colère envers lui. Elle avait peur. Pour sa fille. Elle sait qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve, pensa Ralph. Elle voit que pour moi ça a une signification. Quand les pleurs de la fillette s'apaisèrent, Ralph dit « Parfait, Grace. Merci de m'avoir raconté ton rêve. C'est fini tout ça maintenant, hein ?»«
Oui. »
répondit Grace d'une voix enrouée par les larmes.
« Il est parti. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, et il est parti. »«
On va manger le gâteau ici, » déclara Marcy.
« Va aider ta sœur à apporter les assiettes. »
Grace se précipita dans la cuisine. Quand Marcy et Ralph se retrouvèrent seuls, elle confia.
« C'est très dur pour elle, surtout pour Grace. Je serais tenté de penser que c'était juste un rêve, mais oui, n'est pas de cet avis. Et je sens que vous non plus. » N'est-ce pas ?
Madame Maitland, Marcy, je ne sais pas quoi penser. Avez-vous inspecté la chambre de Grace ?
Bien sûr, dès qu'elle m'expliquait pourquoi elle avait appelé Howie.
Aucun signe de la présence d'un intrus ?
Non, la fenêtre était fermée. Et Sarah a raison au sujet de l'escalier. C'est une vieille maison et toutes les marches grincent.
Et le lit ? Grace dit que l'homme s'y est assis. Marcy émit un petit rire sans joie.
Difficile à dire. Elle gigote comme un ver depuis.
Elle enfouit son visage dans ses mains.
C'est affreux.
Ralph se leva et s'approcha du canapé avec l'intention de la réconforter, mais Marcy se raidit et recula.
Je vous en supplie, dit-elle, ne vous asseyez pas et ne me touchez pas. Votre présence dans cette maison n'est que tolérée, inspecteur. Afin que ma fille cadette dorme enfin cette nuit, sans réveiller toute la maison avec ses hurlements.
Ralph fut dispensé de répondre grâce au retour de Howie et des deux fillettes. Grace tenait prudemment une assiette dans chaque main. Marcy sécha ses larmes d'un geste rapide, presque imperceptible, et plaqua sur son visage un sourire éclatant.
« Bravo !»
s'exclama-t-elle. Ralph prit sa part du gâteau en disant merci. Il avait raconté à Jenny tous les détails de cette affaire cauchemardesque, mais il ne lui parlerait pas du rêve de la fillette. Non, pas ça. 8. Alec Pelé pensait avoir parmi ses contacts le numéro qui l'intéressait. Mais quand il l'appela, un message lui annonça qu'il n'était plus attribué. Il dénicha son vieux carnet d'adresses noires, jadis fidèle compagnon qui l'avait accompagné partout. Aujourd'hui relégué dans un tiroir de bureau, tout en bas, qui plus est, en s'étant du tout numérique. Et il essaya un autre numéro.
« Finders Keepers !»
dit la voix au bout du fil. Persuadé d'être tombé sur un répondeur, hypothèse plausible en ce samedi soir, Alec attendit qu'on lui indique les horaires d'ouverture, suivi de la liste de diverses options accessibles en tapant tel ou tel chiffre, jusqu'à ce qu'on l'invite à laisser un message après le signal sonore. Au lieu de cela, la voix demanda d'un ton un peu ronchon.
« Y a quelqu'un ?»
Alec s'aperçut qu'il connaissait cette voix, bien qu'il ne puisse pas mettre un nom dessus. Depuis quand n'avait-il pas parlé à la personne qui possédait cette voix ? 2 ans ? 3 ?
« Je vais raccrocher. »«
Non, je suis là. Je m'appelle Alec Pelé. J'essayais de joindre Bill Hodges. J'ai travaillé avec lui sur une affaire il y a quelques années, juste après avoir pris ma retraite de la police d'État. Un mauvais acteur nommé Oliver Madden avait volé un avion appartenant à un magnat du pétrole texan qui s'appelait
Dwight Crumb. Je m'en souviens. Et je me souviens de vous, Monsieur Pellé, bien qu'on ne se soit jamais rencontré. Monsieur Cram ne nous a pas payé rubis sur l'ongle, je suis au regret de le dire. J'ai dû lui envoyer une demi-douzaine de factures au moins, puis menacer d'intenter une action en justice. J'espère que vous avez eu plus de chance.
Ça n'a pas été simple, répondit Alec en souriant à l'évocation de ce souvenir. Le premier chèque qu'il m'a envoyé m'est revenu impayé, mais le second est passé. Vous êtes Holly, c'est bien ça? Je ne me souviens pas de votre nom de famille, mais Bill ne tarissait pas d'éloges sur vous.
Holly Gibney.
Eh bien, ravi de pouvoir bavarder avec vous, Madame Gibney. J'ai essayé de joindre Bill, mais je suppose qu'il a changé de numéro.
Silence.
Madame Gibney, vous êtes là?
Oui, je suis toujours là. Bill est mort il y a 2 ans.
Oh mon Dieu, toutes mes condoléances. Son cœur.
Alec n'avait rencontré Bill Hodges qu'une seule fois. Il travaillait essentiellement par téléphone et par mail, mais il se souvenait d'un homme plutôt enrobé.
Cancer. Le pancréas. Maintenant, c'est moi qui dirige la société, avec Peter Huntley, un ancien collègue de Bill dans la police.
Tant mieux.
Non, pas tant mieux. Les affaires marchent très bien, mais je plaquerais tout sans hésiter si ça pouvait faire revenir Bill. Le cancer, c'est une vraie saloperie.
Alec faillit la remercier et conclure son appel en réitérant ses condoléances. Par la suite, il se demanda ce que ça aurait changé. Mais il se remémora une chose que lui avait dite Bill au sujet de cette femme pendant qu'ils essayaient de récupérer le King Air de Dwight Cram.
Elle est excentrique, un peu obsessionnelle et pas très douée pour les relations personnelles. Mais aucun détail ne lui échappe. Holly aurait fait un sacré flic. J'espérais engager Bill pour un travail d'enquête, dit-il. Mais vous pourriez peut-être le remplacer. Il disait le plus grand bien de vous.
Vous m'envoyez ravi, Monsieur Pellé. Mais je doute que nous correspondions à ce que vous cherchez. Finders Keepers s'occupe surtout de retrouver des personnes disparues ou des détenus en cavale.
Après une pause, elle ajouta.
Sans compter que nous sommes loin de chez vous. À moins que vous appeliez du Nord-Est.
Non, mais l'affaire qui m'intéresse se passe dans l'Ohio. Et je ne peux pas me déplacer. Je suis retenu ici par différentes obligations. Vous êtes à quelle distance de Dayton?
Un instant, je vous prie.
Elle revint en ligne presque immédiatement.
371 kilomètres très exactement, d'après MapQuest. Un excellent logiciel. De quelle affaire s'agit-il, Monsieur Pellé? Avant que vous répondiez à cette question, sachez que s'il y a un risque de violence, je serai obligé de décliner votre proposition. J'ai la violence en horreur.
Non, aucune violence. Un crime a été commis, le meurtre d'un enfant. Mais ça s'est passé ici, et l'homme arrêté pour ce meurtre est mort. La question, c'est de savoir si c'était réellement lui le coupable. Pour y répondre, il faut enquêter sur un voyage qu'il a effectué à Dayton en avril dernier, avec sa famille.
Je vois. Et qui paiera les honoraires de l'agence? Vous?
Non, un avocat nommé Howie Gold.
À votre connaissance, ce monsieur Gold paie plus rapidement que Dwight Cram?
Cette question fit sourire Alec.
Soyez sans crainte.
Si l'avance sortait de la poche de Howie, effectivement, la totalité des honoraires de l'agence Finders Keepers, en supposant que Holly Gibney accepte l'enquête, serait réglée finalement par Marcy Maitland, qui en aurait tout à fait les moyens. La compagnie d'assurance rechignerait à indemniser l'épouse d'un homme accusé de meurtre, mais Terry n'ayant jamais été inculpé de quoi que ce soit, il n'aurait aucun recours. Sans oublier le procès intenté par Howie contre Flint City au nom de Marcy, pour décès imputable à une faute de la police. Il avait confié à Alec son espoir d'obtenir un règlement à l'amiable, accompagné d'un chèque à 7 chiffres. Un compte en banque bien garni ne lui rendrait pas son mari, mais cela paierait les frais d'enquête, l'achat d'une maison si Marcy décidait de déménager et les études des filles. L'argent n'était pas un remède contre le chagrin, se dit Alec, mais il leur permettrait de porter le deuil dans un confort relatif.
Parlez-moi de cette affaire, monsieur Pellé, et je vous dirai si je l'accepte.
Cela risque de prendre du temps. Je peux vous rappeler demain, pendant les heures de bureau, si vous préférez.
Non, ce soir, c'est très bien. Accordez-moi juste un instant pour arrêter le film que je suis en train de regarder.
J'espère que je ne vous gâche pas la soirée.
Non, rassurez-vous. J'ai déjà vu Les Sentiers de la Gloire une dizaine de fois au moins. Un des meilleurs films de Kubrick. Bien meilleur que Shining et Barry Lyndon, si vous voulez mon avis. Mais évidemment, il était beaucoup plus jeune quand il l'a réalisé. Les jeunes artistes prennent plus facilement des risques, toujours selon moi.
Je ne suis pas très cinéphile, avoua Alec en repensant aux paroles de Bill Hodges, excentrique et un peu obsessionnel.
Les films illuminent le monde, voilà ce que je pense. Une seconde, je vous prie.
En fond sonore, une musique assourdie s'arrêta. Holly revint en ligne.
Eh bien, expliquez-moi ce qui vous intéresse à Dayton, monsieur Pellé.
Ce n'est pas juste une longue histoire, c'est aussi une étrange histoire, je vous préviens.
Holly laissa échapper un éclat de rire tonitruant, qui tranchait avec sa manière de parler plutôt réservée. Cela la rajeunissait.
Ce ne sera pas la première histoire étrange que j'entends, croyez-moi. Quand j'étais avec Bill, enfin bref, si nous devons avoir une longue discussion, commencez par m'appeler Holly. Je vais mettre le haut-parleur pour avoir les mains libres. Attendez, voilà, racontez-moi tout.
Encouragé, Alex se lança. En fond sonore, la musique de film avait été remplacée par le cliquetis d'un clavier. Holly prenait des notes. Et avant même la fin de leur conversation, il se réjouit de ne pas avoir accroché. Elle posait les bonnes questions, précises et pertinentes. L'étrangeté de cette affaire ne semblait pas la perturber. La disparition de Bill Hodges était une bien triste nouvelle, mais Alec songeait qu'il avait peut-être trouvé la remplaçante idéale. Quand il eut achevé son récit, il demanda
« Eh bien, êtes-vous intrigué ?»«
Oui, monsieur Pellé. »
« Alec, si je vous appelle Holly, vous devez m'appeler Alec. »
« Très bien, Alec. Finders Keepers va prendre cette affaire. Je vous adresserai des rapports réguliers par téléphone, par mail ou sur FaceTime, que je trouve bien plus pratique que Skype, personnellement. Et quand j'aurai rassemblé le maximum d'informations, je vous enverrai un résumé complet. »
« Merci. Cela me paraît très... »
Bien. Maintenant, je vais vous donner un numéro de compte sur lequel vous pourrez virer le montant de l'avance dont nous sommes convenus.